en direct des territoires, une émission présentée par Christophe Bordet sur Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette émission en direct des territoires sur Radio Territoria. Invité ce mois-ci, François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire. Bonjour François Bonneau.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, bien évidemment.
C'est un plaisir.
Pour vous interroger à mes côtés, ma consoeur Anne-Solange Muisse. Bonjour Anne-Solange.
Bonjour, bonjour à tous.
Et en visio à distance, Éric Richard. Bonjour Éric Richard. Vous êtes journaliste responsable du bureau d'Orléans à la Nouvelle République du Centre. Et bien entendu, il était important que la presse locale, la presse quotidienne régionale, soit avec nous dans cette émission aujourd'hui. Monsieur le Président de Région, nous allons vous questionner sur de nombreux sujets. L'actualité nationale, bien sûr. Nous allons passer en revue les dossiers chauds qui animent votre région. Et puis nous évoquerons les régionales qui, théoriquement, doivent se tenir au mois de juin, mais ce n'est pas encore complètement certain. Je sais que vous avez un avis bien tranché sur la question. Je sais même que vous avez déjeuné il y a quelques semaines maintenant avec le président de la République et qu'il a été question justement des régionales. Vous nous direz tout dans quelques instants. C'est parti pour l'actualité.
En direct des territoires, l'invité.
François Bonneau, une première question, toute simple. Entre le Centre Val-de-Loire et les studios de Radio Territoria à Paris, vous avez été contrôlé ou pas ?
Non.
Non ?
Pas de contrôle pour prendre l'autoroute entre Orléans et Paris.
Même pas les gendarmes, même pas les policiers, nulle part. Vous ne les avez pas vus ?
Pas de contrôle et une circulation qui montre que la vie économique continue à se développer, puisque la circulation était légèrement inférieure à ce qu'on peut avoir d'habitude, mais quand même d'une belle densité. Ça tranche par rapport au premier confinement. Le premier confinement, il m'est arrivé par rapport à mes responsabilités à Paris de président délégué des régions de France de venir. Et franchement, nous roulions dans un quasi désert. Là, on est beaucoup plus proche de la normale sur le plan du fonctionnement, de la circulation économique.
Est-ce que vous pensez que ce confinement, justement, est assez dur pour faire retomber le taux épidémique ? On est à plus de 40 000 cas déclarés par jour. Il faut revenir en dessous de 5 000. Ça paraît un peu compliqué avec ce confinement qui en est un sans en être un, finalement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais...
Il faut, je crois, au-delà du fonctionnement économique, il faut vraiment que tout soit mis en protection et confiné. Il faut que nos concitoyens comprennent la nécessité de ne pas rencontrer, de ne pas bouger, etc., etc. C'est nécessaire. On a vu l'efficacité du confinement en première version. On était aussi sur quelque chose de très dur sur le plan économique, notamment dans les toutes premières semaines, et on ne peut pas faire vivre un pays à l'arrêt pendant des mois et des années. Donc il est nécessaire qu'il y ait une activité économique. Mais je crois que les rencontres, qui sont souvent des lieux, doivent être vraiment, vraiment, vraiment totalement, totalement exceptionnelles. C'est une cause importante. On est dans une situation grave.
Les réunions de famille, notamment, etc.
Réunions de famille, réunions entre amis, etc. Il faut mieux faire un effort de quelques semaines pour arrêter cela que d'avoir, comme certains pays le voient aujourd'hui, une épidémie dévastatrice sur le plan à la fois de la santé et du risque de mortalité.
Alors, François Bonneau, vous avez la charge des lycées. Les lycéens suivent les cours à distance cette semaine. Honnêtement, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple pour eux, parce que souvent, il y a cette tentation de décrocher quand même, quand on fait les cours à distance. Génération sacrifiée, François Bonneau ?
Il faut absolument...
Pas de langue de bois.
Tout faire pour que ce ne soit pas génération sacrifiée. Je vous le dis franchement, je vais vous dire ce que j'ai engagé dans ma région. Ouais. Tout faire, ça veut dire que chez eux, les lycéens doivent avoir impérativement accès aux cours, accès aux profs, accès à l'ensemble du support, quel support pédagogique. J'ai mis en place...
Il faut qu'Internet fonctionne.
J'ai augmenté, multiplié par 10 les flux en direction des lycéens. Nous avons mis à disposition des box 4G pour que les jeunes qui sont isolés, etc., ou qui n'ont pas les moyens de prendre l'abonnement, puissent être reliés. J'ai fait en sorte que les lycéens qui n'avaient pas d'ordinateur puissent acquérir ces ordinateurs dans des conditions économiques très favorables, puisqu'un boursier SIPAR achète un ordinateur qui vaut 830 euros pour 20 euros, un boursier une part pour 200 euros, et quelqu'un qui n'est pas boursier a son ordinateur pour 300 euros, l'ordinateur qui vaut 800 euros, qui va l'accompagner au lycée et à l'université derrière. Mmh. Et puis, il faut, au-delà de ça, que nous ayons véritablement une bonne organisation de nos lycées, que les profs puissent faire les cours dans de bonnes conditions également.
François Bonneau, ce confinement engendre évidemment beaucoup de questions et sur beaucoup de sujets. Vous êtes dans une région, le Centre-Val de Loire, où il y a quand même une grosse industrie, notamment automobile, notamment aéronautique, et ce sont les deux industries qui aujourd'hui sont un peu quand même victimes de ce Covid, de cette épidémie et évidemment des conséquences économiques. Comment vous voyez l'avenir de ces deux industries? Parce que c'est quand même très compliqué. Est-ce que l'aéronautique, par exemple, est prêt à se réinventer rapidement?
Juste, je vais répondre à vos questions. Oui. Juste avant, vous dire aussi que Centre-Val de Loire, c'est la première région pour la pharmacie, je le dis par rapport,
on va en parler,
par
on va
rapport
en parler.
À ça, et pour la cosmétique.
On va en parler.
Sur l'aéronautique et l'automobile, il faut viser la génération suivante. Viser la génération suivante sur l'aéronautique, ça veut dire que les recherches doivent se poursuivre et s'accélérer s'agissant des nouveaux matériaux utilisés dans la construction aéronautique pour des matériaux plus légers. Ça veut dire de nouvelles motorisations. Aujourd'hui, on a des motorisations hyper consommatrices d'énergie fossile,
l'avion
très polluantes. Il faut aller vers... ça veut dire accélérer la recherche sur l'hydrogène. Puis ça veut dire aussi fonctionner différemment. Quand on a le choix entre le TGV et l'avion, mieux vaut le TGV. Quand on a à circuler à une échelle où on peut avoir d'autres moyens, il faut le faire. Mais l'avion est une possibilité, une nécessité pour des échanges internationaux. Le deuxième aspect, c'est celui de l'automobile. L'automobile, je vous donne juste cet exemple. J'ai dans ma région une entreprise qui s'appelle All-Circuit. All-Circuit qui fait des circuits imprimés pour l'automobile. Eh bien, ils ont eu l'audace, et nous les soutenons, et ils sont également soutenus par l'État, ils ont eu l'audace de dire « on va investir plusieurs dizaines de millions » pour créer des chaînes pour tous les circuits intégrés qui vont être embarqués pour la gestion de l'électricité sur les moteurs qui sont les moteurs électriques des véhicules. Mmh. Ils ont obtenu le marché Volkswagen, ils ont obtenu le marché Renault, ils investissent, ils vont créer 200 emplois. L'automobile doit se révolutionner véritablement. Il faut qu'on arrête avec l'énergie fossile le plus vite possible. Mais l'automobile est un élément de notre quotidien, est aussi un élément de notre liberté lorsque l'on peut...
bouger au-delà de 10 kilomètres.
Bien sûr, bien sûr. Et donc, l'automobile aujourd'hui a un avenir dès lors qu'on fait le pari de l'innovation, dès lors qu'on fait le pari des nouveaux matériaux, des nouvelles motorisations et qu'on fait la relocalisation. Je vous dis ça parce que trop souvent, les constructeurs automobiles ont pris l'habitude d'aller systématiquement chercher des fournisseurs à l'est de l'Europe ou en Asie. C'était le cas, l'Asie, pour les circuits intégrés
dont
je vous ai parlé.
Si on prend une marque comme Dacia sans vouloir faire de pub,
au Maroc.
Et on c'est aussi pour ça qu'on a des voitures moins chères, neuves et que l'on peut acheter.
Mais on a une formidable opportunité. À partir du moment où nous avons ces progrès de l'innovation, où nous avons besoin pour construire, pour assembler d'une ressources humaines de haut niveau, à ce moment-là, l'Europe et la France ont des atouts.
Mais quand même,
et il faut
ce
jouer
ces atouts. J'entends ce que vous me dites. Les choses ne vont pas changer non plus du jour au lendemain. Il va falloir un temps d'adaptation pour aller vers ces énergies. Pour la voiture, c'est déjà bien entamé, effectivement. Pour l'avion, c'est encore autre chose. J'ai envie de vous dire, les aides vont s'arrêter. À un moment ou à un autre, elles vont s'arrêter. Est-ce que vous craignez qu'en Centre-Val de Loire, pardon d'utiliser cette image, il y ait des morts, il y ait des gens qui restent sur le carreau, il y ait des chômeurs en plus?
Il y a un an, un peu plus, 15 mois, tous les responsables des entreprises, des sous-traitants aéronautiques ou des sous-traitants automobiles venaient me voir en disant « Président, il faut que vous fassiez quelque chose parce qu'on manque de compétences. On a besoin d'électromécaniciens, on a besoin de chargés de maintenance, on a besoin de conducteurs de ligne, etc. etc. » On avait un déficit de compétences. Si, à cause de la crise, on laisse sombrer des secteurs ou des entreprises, au moment de la reprise, dans un an, dans deux ans, on ne pourra pas repartir, on ne pourra pas faire redécoller notre industrie parce qu'on n'aura pas les compétences. Donc, il faut conserver ces compétences. Il faut tout faire pour poursuivre autant que nécessaire l'effort qui est l'effort de maintien de ces entreprises debout. Les entreprises en France ou en Centre-Val de Loire ont un avenir parce qu'il y a de l'innovation, parce qu'il y a de la ressource humaine qui est plutôt de niveau supérieur à ce qu'on peut voir dans pas mal d'autres pays concurrents. Donc, il faut tenir bon dans cette période.
Il ne faut pas débrancher les aides immédiatement.
Il ne faut pas débrancher les aides immédiatement. Il faut poursuivre les aides.
Prendre l'argent, François Bonneau, pardon, mais enfin là, par exemple, le confinement qui dure 4 semaines, 11 milliards d'euros.
Oui.
On n'arrêtait pas de nous dire, il n'y a pas d'argent dans ce pays. Et tout d'un coup, il y a des milliards qui pleuvent depuis des mois. Et c'est absolument invraisemblable.
J'inverse la question. Ouais. Est-ce qu'on a le choix ? Si on a le choix, ça veut dire qu'on arrête les aides. Ça veut dire qu'on condamne l'industrie en France. Alors qu'elle a largement et trop baissé dans ces dernières décennies. Mmh. Si on fait le pari d'un pays industriel parce qu'on a de la recherche, on a de l'innovation, on a de la compétence et on a la capacité de mobiliser des crédits, alors il faut tenir bon dans cette période, mais pas simplement pour tenir bon. Il faut regarder au-delà de la ligne, au-delà du sommet de la colline. Quand on ne sera plus dans cette contrainte, on a une révolution environnementale qui est à l'œuvre. C'est à l'évidence, une chance pour le développement économique. C'est une chance pour le développement industriel. Il ne faut pas le voir comme anti-industriel, anti-économique. Ce sont d'autres services, d'autres projets, d'autres objets. Et cette révolution-là, elle est, à mon avis, à portée de main pour la France, pour l'Europe et pour la France.
François Bonneau, parlons des vaccins et de la vaccination en France. Défiance de plus en plus grande contre le vaccin AstraZeneca, à l'origine possible, je dis bien possible, de thrombose, dans une proportion qui est somme toute très faible. Mais ça inquiète quand même de nombreux Français qui refusent désormais de se faire vacciner. Vous le feriez, vous, avec le vaccin AstraZeneca ?
Je le ferai. Je le ferai parce que aujourd'hui rien n'est établi scientifiquement. Rien n'est établi scientifiquement qui montre que le nombre de thromboses observées chez les personnes vaccinées est supérieur à celui observé sur une même population en dehors du vaccin. Mmh. Il faut, je crois, être rationnel dans une période comme ça. Il y a beaucoup de choses où les gens se font peur, où les gens sont immédiatement insécurisés. Il faut établir scientifiquement s'il y a un risque, bien évidemment, il faut stopper, etc. Le risque n'est pas établi aujourd'hui. Mmh. Quand on nous dit que l'Organisation mondiale de la santé...
Le problème, c'est qu'on vaccine aussi parce qu'on n'a pas le choix. Il faut vacciner. Donc on ne peut pas avoir le recul nécessaire. C'est compliqué.
Oui, mais on ne peut pas vacciner avec quelque chose qui serait un danger alors que c'est fait pour sauver la vie. Mmh. Donc s'il y a un risque, bien évidemment, il faut arrêter. Aujourd'hui, il n'est pas du tout établi qu'il y ait un risque spécifique lié à l'utilisation de ce vaccin. On sait que... moi, j'irai plus loin encore. On sait que le vaccin est la solution. Il n'y a pas d'autre solution. Mais je vais plus loin en disant attention, ne pensons pas simplement aux vaccins dans les pays développés. Et aujourd'hui, on a l'Afrique où il n'y a rien de fait. Mais c'est une aberration d'abord et c'est inacceptable sur le plan humain, sur le plan humanitaire par rapport aux habitants de ce beau continent, de ce vaste continent. Mais si on laisse une poche du monde sans vaccin, mais du jour au lendemain, nous, on aura beau faire toutes les vaccinations, on aura les variants qui reviendront. Donc c'est également une absurdité sur le plan médical. Donc le vaccin, toutes les garanties, toutes les sécurités, je ressens quand même qu'une fois passée l'émotion, quand les informations ont été données sur un possible risque d'AstraZeneca, une fois passé cela, on revient quand même et on voit les files d'attente et on voit les gens d'Octolib s'impatienter. Et quand on leur dit que c'est AstraZeneca, ils disent oui tout de suite et le mieux possible. Et c'est ça le message. Il y a un peu plus de crainte chez les soignants, en tous les cas dans une première phase, parce qu'ils étaient les signataires de cette information sur un risque potentiel. Aujourd'hui, je pense que les informations sont en train de s'éclaircir là-dessus.
François Bonneau, chez vous, d'après ce que j'ai compris en tout cas, pas de vaccinodrome à Olivet, dans le Loiret, par exemple. Pas de vaccinodrome, en tout cas, avant le 12 avril prochain. J'ai envie de vous dire, c'est très tardif. À qui la faute ?
C'est très tardif. Il y a eu toutes les hésitations du départ où des annonces ont été faites qui ont fait croire que les vaccins étaient disponibles alors qu'ils ne l'étaient pas. Et ça a porté de la confusion. Le gouvernement aujourd'hui fait des annonces sur la massification. Je veux bien le croire, dans ma région, dans Centre-Val de Loire, sur Mont avec Pfizer et sur l'Eure-et-Loire et notamment Saint-Rémy-sur-Arve avec l'autre qui est Moderna, nous avons deux des trois centres nationaux qui vont conditionner, qui vont conditionner.
Embouteillé, oui.
Et
si
donc,
on peut dire.
On va avoir dans les semaines qui viennent, au niveau européen, de nouvelles unités de production. Vous savez, moi, je suis assez clair là-dessus. J'aurais aimé que les recherches, soient, quel que soit l'endroit où elles sont faites, soient bien évidemment l'objet d'une indemnisation pour les laboratoires, mais soient mis dans le domaine public. Et qu'on puisse avoir dans une région de pharmacie comme les Centres-Val de Loire, mais partout à l'échelle de l'Europe et du monde, une mobilisation. C'est une cause humanitaire mondiale, qu'on puisse avoir toutes les entreprises qui, dès lors que les process sont certifiés, qui produisent et qui conditionnent pour qu'on puisse avoir vraiment une couverture la plus rapide possible. Aujourd'hui, urgence absolue à la vaccination. C'est comme ça que nous protégerons et c'est comme ça que nous éradiquerons ce virus.
Tiens, Éric Richard, qui est avec nous, que j'ai invité dans cette émission de la Nouvelle République du Centre. Éric, sur les aspects vaccinales, si je puis dire, vous avez une question ?
Oui, à propos de politique de santé, François Bonneau, vous venez de le rappeler, vous étiez intervenu à plusieurs reprises ces derniers mois pour demander justement que les élus, et notamment les élus régionaux, soient davantage intégrés dans les politiques publiques, notamment pour l'organisation, vous venez de le rappeler, de la vaccination. Vous aviez même échangé, on s'en souvient, avec le Premier ministre quand il était venu à Orléans, vous aviez échangé avec lui sur le sujet. Alors, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui les choses ont évolué par rapport à l'an dernier et que le gouvernement vous a entendu au moins en partie ?
Oui, les choses évoluent au sens où, heureusement, on a un peu plus de vaccins disponibles et de gens qui peuvent être vaccinés. Les choses évoluent au sens où on va diversifier à la fois les lieux avec la création de ces vaccinodromes, mais aussi des vaccins chez le médecin, des vaccins chez le pharmacien. Mais il faut aller plus vite et plus loin. C'est vraiment une course qui est engagée. Si on fait massivement de la vaccination, on arrivera à éradiquer ce virus. Sinon, on va être pendant de longs mois, voire de longues années, sous cette menace, et c'est une menace qui est terrible. Donc un progrès, oui, mais il faut aller plus loin. Et il faut notamment dans les vaccinodromes, mais chez les médecins de ville, dans la médecine de ville, et chez les pharmaciens au plus près de lieu de vie des gens. Moi, je préside une région qui a deux métropoles, mais qui a aussi beaucoup de ruralité. Et c'est une ruralité dans laquelle on ne trouve pas forcément de médecins.
Si les médecins et vous peuvent... manquez de médecins.
Et on
manque
de médecins,
dans un
instant,
oui.
Mais si les médecins peuvent faire, si les pharmaciens peuvent faire, si on a une bonne diffusion de ces vaccins, et notamment ceux qui se conservent dans de bonnes conditions, alors on va réussir à prendre de vitesse l'épidémie.
Il fallait laisser les présidents de région gérer cette vaccination.
Oui,
même les vaccins. Enfin, voilà.
On est sur quelque chose qui est beaucoup trop vertical. Sur des choses comme ça, on ne peut pas tout organiser et tout décider de Paris. Les agences régionales de santé font ce qu'elles peuvent, mais elles sont dans cette verticalité. Je crois que aujourd'hui, l'organisation de la santé doit bien évidemment répondre à des impulsions, à un cadre fixé par l'État. C'est une mission qui appartient à l'État. Mais la mise en œuvre, si on veut qu'elle soit réactive, qu'elle soit fine, qu'elle soit adaptée au territoire, adaptée aux populations, il faut absolument que les collectivités territoriales soient partie prenante de ça aux côtés de l'État. C'est ce que nous avons demandé. Il y a notamment un projet de loi dit de nouvelle décentralisation, la loi 4D. Eh bien, nous demandons très fortement à ce que les collectivités soient reconnues, et les régions notamment, soient reconnues là-dedans. Nous souhaitons même qu'il y ait une coprésidence des agences de santé qui sont sur les territoires régionaux par préfet de région et président de région.
François Bonneau, nous poursuivons cette émission en direct des territoires sur Radio Territoria. Coup de projecteur à présent sur le Centre Val-de-Loire.
En direct des territoires, les dossiers régionaux.
François Bonneau, nous parlions santé il y a quelques instants avec la vaccination contre la Covid-19. La région Centre-Val-de-Loire souffre d'un manque de médecins, j'y ai fait allusion. Éric Richard de la République, de la Nouvelle République du Centre, qui est avec nous, a quelques questions à vous poser sur ce sujet.
Oui, sur le plan 100% santé, je crois que c'est l'occasion, François Bonneau, de rappeler ce que vous avez souhaité mettre en œuvre, compte tenu notamment du fait que la région Centre-Val de Loire est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand désert médical de France. Vous avez donc, dans ce plan concerté avec les élus régionaux, l'embauche de 150 médecins salariés par le biais d'un groupement public. Alors, certains sans critiquer d'ailleurs hein, votre démarche, avaient considéré initialement qu'elle était peut-être un peu ambitieuse et qu'on ne trouverait pas forcément 150 praticiens comme ça, si je puis dire. Vous avez mis en œuvre ce plan, déjà quelques-uns sont embauchés. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes à ce jour ?
Oui, on a une petite dizaine de praticiens qui sont embauchés. On a une quinzaine de contacts et tout cela en 2 mois et demi. Les choses avancent. Ça n'est pas simple. J'ai pris une structure qui aide à aller chercher les talents, à les aspirer. Je vais signer cette semaine une convention avec l'association des internes de médecine de mon CHU, des jeunes qui sont complètement motivés. Nous utilisons tous les moyens. Je pense que le cap est bon. Pourquoi ? Parce qu'on a dans les jeunes générations des médecins qui ont envie de s'installer en libéral dès lors qu'ils sont en collectif. C'est pourquoi nous avons créé 100 maisons de santé pluridisciplinaires. Mais une autre partie, ça c'est assez nouveau, a envie d'être salarié. Eh bien, je dis qu'il nous faut à la fois favoriser l'installation des libéraux et l'installation des salariés. C'est la raison pour laquelle j'ai engagé ce plan. C'est la seule région à l'avoir fait, ce plan des 150 médecins salariés par la région qui seront installés dans des centres de santé. Des centres de santé, ça veut dire que ce sont des salariés, à la différence des MSP où on a des libéraux.
Bien
et
payé,
je veux la complémentarité sur la tarification de l'hôpital, dans les D'accord. mêmes conditions qu'un médecin hospitalier.
Donc, en gros, 6 000 euros.
C'est ça.
Voilà, 6 000 euros, ce qui est un bon salaire, surtout quand on habite dans votre belle région.
Absolument.
On respire bien, on boit bien.
Absolument. Enfin, une région où la qualité de vie est reconnue, dans une région où on a beaucoup de communication avec le reste de la France, dans une région qui est proche de l'Île-de-France, pour des jeunes qui, on en voit beaucoup aujourd'hui avec ce confinement, pas forcément des médecins, mais qui ont envie de venir dans des
espaces. C'est intéressant, mais il y a quand même deux choses qui me marquent. D'abord, effectivement, la santé, c'est pas dans vos compétences.
Oui.
Donc vous outrepassez vos conséquences de président de région, déjà. Et puis, en faisant comme ça, on se dit, certes, c'est utile, bien évidemment, mais enfin, c'est l'économie, comment dire, dirigée de l'URSS, presque, chez vous, là, sur l'histoire des médecins, puisque c'est la région qui décide.
Non, ce n'est pas l'économie dirigée. J'aurais aimé que l'État, dans toutes ces dernières décennies, décide vraiment. C'est-à-dire fixe un numerus clausus qui soit en lien avec les besoins de la population et fasse quelque chose pour qu'il y ait une population de médecins bien répartis sur le territoire. Il y a 40 fois plus de psychiatres sur la Côte d'Azur qu'il y en a dans ma région. Dans ma région, il y a des gens qui ont des troubles psychiques et qui sont en grande souffrance parce qu'ils n'ont pas accès à un psychiatre. Et donc je dis que la responsabilité de l'État exercer de manière verticale et jusqu'au terrain, ça n'est absolument pas un gage d'équité. Il faut là-dessus que les collectivités puissent s'impliquer. Ça n'est pas le rôle de la région, vous avez raison, c'est la seule région qui soit partie là-dessus. Mais comment voulez-vous que j'attire, et je le fais assez régulièrement, des entreprises pour venir s'installer dans ma région ? Comment voulez-vous que des cadres, des ingénieurs, des techniciens disent « Tiens, c'est une belle région, on va aller en Centre-Val-de-Loire, on va vivre en Centre-Val-de-Loire » s'ils disent « Ah oui, il y a un problème, parce qu'il n'y a pas de médecins dans les hôpitaux, parce qu'il n'y a pas de médecins en médecine de ville, ça ne serait pas possible. » Donc moi, j'ai la responsabilité de l'aménagement du territoire. Je sais que le développement économique, social, touristique passe par la présence médicale. Et donc j'ai pris mes responsabilités. Il a fallu tordre un peu le bras de certaines autorités de l'État qui me disaient en effet, mais quand même la compétence. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde est aligné. L'ARS est complètement en soutien de l'initiative régionale, la préfecture tout autant. Et du côté du ministère, on a bien compris que ma détermination était totale là-dessus.
Allez, nouvelle question d'Éric Richard de la Nouvelle République du Centre.
Oui, simplement sur cette question, François Bonneau, pour préciser, ça vous semble donc aujourd'hui réaliste de pouvoir tenir en quelque sorte le cap de ces 150 embauches ?
Oui, bien sûr, j'ai fixé cela sur 5 ans, vous le savez, ça fait 30 médecins par an. La première année, j'aurai complètement, peut-être un peu dépassé, ce qui sera bien, rempli l'engagement qui est le mien.
Et ce sont des médecins, juste pour terminer là-dessus, ce sont des médecins qui viennent de l'étranger?
Non, pas du tout. Non, il n'y a pas de médecins qui viennent de l'étranger. Je ne me l'interdis pas, parce qu'il y a aussi des talents dans d'autres pays, je ne me l'interdis pas. Mais aujourd'hui, ce sont soit des jeunes médecins qui sont intéressés par l'exercice, soit des médecins dans une phase un peu avancée de leur carrière, qui n'ont plus envie de la pression de l'exercice libéral. Pour faire simple, si vous me permettez, ils disent « il y en a marre de la paperasse ». Et donc, qui sont très intéressés par le fait de travailler en ayant un secrétariat médical, en ayant autour d'eux un certain nombre d'éléments qui leur permettent de se consacrer complètement à leur art. Et c'est important, et on a besoin d'eux dans ce domaine.
C'est marrant parce que depuis le début de l'émission, quand je vous écoute et dérouler, évidemment, la politique que vous menez au niveau local, qui est très concrète, finalement, qui fonctionne plutôt pas mal a priori, on se dit vraiment, mais l'État est nul par rapport aux régions. L'État est nul.
C'est pas l'État est nul. C'est dans l'organisation d'aujourd'hui, quels que soient les domaines, que soit le domaine économique, le domaine qui dépend de l'État, etc. On sait qu'une organisation verticale où une décision est prise à Paris est censée s'appliquer jusqu'au territoire dans la plus petite des capillarités, ça ne fonctionne plus. On n'est pas efficace comme ça. On est efficace si dans la mise en œuvre de décisions, on est capable de tenir compte de l'environnement. On est capable de motiver les gens sur le territoire pour bosser ensemble. Et ça ne se fait pas depuis Paris. Donc c'est une évolution qu'il faut absolument accélérer. La France s'est construite, et c'est tout notre honneur, notre fierté, notre histoire, avec une vision assez verticale. Mais dans un monde aussi exigeant, aussi rapide, avec autant d'interactions entre l'économique, le social, l'environnemental, etc., il faut des réseaux d'acteurs sur les territoires venant de différents endroits. Il faut donc la décentralisation. Mais pas une décentralisation, la région fait tout. La région, à son niveau, impulse avec les territoires. Et je crois qu'on est dans une transformation de l'action publique.
François Bonneau, justement, on va parler environnement. Vous lâchiez le mot il y a quelques instants. On va parler écologie avec la plus verte d'entre nous, Anne-Solange Muis, qui est là. Vous avez de quoi mettre en valeur, j'ai envie de dire, votre région sur ce sujet. Parce qu'il y a notamment, je sais qu'Anne-Solange adore le vélo. Et là, le long de la Loire, il y a des pistes cyclables absolument magnifiques. Anne-Solange, je vous laisse la parole.
Oui, alors, indépendamment du vélo, pour juste rebondir sur ce que vous avez dit précédemment, c'est vrai que tout part finalement du terrain. Et des acteurs, des citoyens. Vous avez quand même mis en place quelque chose d'assez original. C'est une COP régionale à l'image d'une COP 21, ce qui est une première sur les territoires. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette initiative? Et est-ce que pour vous, aujourd'hui, le résultat est satisfaisant et suffisant?
Premièrement, oui, la région s'est engagée dans cette COP parce que ma conviction, c'est qu'on ne peut pas avoir, sur un sujet de cette nature, simplement les grandes institutions qui se retrouvent à Paris, à Madrid, à New York, etc., et qui disent « il faut changer notre modèle de développement ». Ça, c'est nécessaire de le dire, c'est nécessaire que les États donnent une impulsion. On a vu quand les États-Unis se retiraient, ça posait des problèmes. Il faut cela. Mais ça part du territoire. Nouveau mode de déplacement. Nouveau mode d'isolation des bâtiments, nouveau mode pour produire de l'énergie, mobilisation pour une consommation moindre aussi, on peut consommer moins. Et donc cette conviction que l'écologie, pour moi, c'est d'abord l'écologie des solutions.
Et sur l'énergie,
d'abord l'écologie des solutions. Mmh. Et pour que ce soit l'écologie des solutions, il faut absolument que les citoyens, les acteurs économiques, les territoires, les élus locaux se mobilisent. C'est là que les solutions seront trouvées. Donc on est parti d'un système qui est un système là aussi vertical, la COP 21, à quelque chose qui part du terrain, que la région va fédérer, impulser, etc., de manière à ce qu'on engage des solutions pour moins consommer d'énergie, consommer d'autres énergies et faire en sorte que nous puissions lutter rapidement contre ce réchauffement climatique qui est une vraie menace. Moi, je suis dans une grande région agricole, Centre-Val-de-Loire, c'est une grande région agricole. Mais si on laisse les choses se faire, elle ne sera plus demain une grande région agricole. Elle sera une région qui sera, de par des phénomènes de sécheresse qui commencent du mois d'avril et qui vont jusqu'au mois de septembre, elle sera une région dans laquelle on ne pourra plus être cette belle terre de maraîchage que l'on apprécie en Centre-Val-de-Loire, cette terre céréalière que l'on apprécie.
Justement, concernant l'agriculture, donc... les céréaliers sont aussi quand même une agriculture relativement, je dirais, polluante, à la fois utilisatrice de...
Consommatrice
d'engrais, de pesticides, etc.
Et d'eau,
tout à fait, notamment pour le maïs. J'ai vu que vous aviez mis en place un inventaire de la biodiversité qui était quand même accessible à tous. J'imagine que ça fait son chemin pour sensibiliser les acteurs à justement être plus en harmonie avec la nature et l'environnement. Est-ce que vous avez mis en place d'autres actions pour essayer de sensibiliser le monde de l'agriculture justement à ces pratiques plus écologiques ?
Oui, il faut travailler très concrètement avec les agriculteurs. Aujourd'hui, si les agriculteurs ont des modes agressifs vis-à-vis de notre environnement, c'est en gros que depuis la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la commande qui a été celle des politiques, celle de la nation, ça a été produire plus pour pouvoir nourrir les gens, sans une attention suffisante à nos enjeux d'environnement. Aujourd'hui, on en mesure les conséquences. Des sols qui sont atrophiés, un air qui est pollué, des eaux qui le sont tout autant. Et donc, il faut inverser progressivement, mais résolument, inverser les modes de production. Comment agir ? Eh bien, à l'échelle de chaque production, la production viande bovine, la production laitière, la production céréalière, etc. On a 14 contrats d'appui aux filières. Eh bien, dans chaque contrat d'appui aux différentes filières, cet enjeu qui est l'enjeu de la performance énergétique, il est posé. Je vous donne juste cet exemple-là, avec ce qu'on appelle les terres céréalières, les grandes cultures. Les agriculteurs de grandes cultures m'ont dit vous allez mettre des caps en place, mais vous n'allez pas venir sur la grande culture, parce que sur la grande culture, c'est difficile de faire autrement. Eh bien, aujourd'hui, avec eux, on a mis en place un cap, un contrat d'appui à la filière grande culture. Et aujourd'hui, avec eux, on est en train de faire quoi ? On est en train de faire la diversification. Parce que si vous faites systématiquement des céréales, du colza, du maïs, eh bien, vous n'apportez pas de nitrates dans la terre. Donc vous êtes obligé d'apporter les nitrates de l'extérieur. Ce sont des apports minéraux et chimiques et problématiques. Qu'est-ce que nous faisons ? Eh bien, nous faisons en sorte qu'il y ait une diversification, qu'au lieu d'avoir une rotation entre 3 cultures, on ait une rotation entre 6, 8, 10 cultures. Je vous donne un exemple concret. Légumineuses à fleurs, ça vous dit quelque chose ? Pas forcément.
Oui.
C'est des légumineuses qui ont des fleurs. Par exemple, les lentilles sont des légumineuses à fleurs. Mais quand vous faites des lentilles sur des terres de Beauce, vous avez automatiquement une fixation de l'azote qui va rentrer dans le sol. Et si l'année d'après, vous mettez du blé, eh bien, vous n'aurez pas besoin d'apporter de sol de l'extérieur. C'est l'azote aura été fixé naturellement. Et ça, nous le favorisons. Et on le favorise d'autant plus que je vais engager, mais sans lycée, mais sans chef de cuisine dans les lycées, à être très attentif en matière d'achat, à être très attentif à ces produits régionaux et à cette utilisation. Deuxième exemple, j'ai une très belle entreprise dans ma région qui est une entreprise qui était une laiterie, qui est restée une grande laiterie, mais qui en même temps fait du conditionnement de jus, etc. Pour les jus, les protéines végétales, elles étaient produites au Brésil et importées. Eh bien, le responsable de cette entreprise, qui est très soucieux de l'environnement, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Eh bien, il passe des contrats avec les agriculteurs de Beauce pour qu'on puisse avoir des protéines qui soient cultivées, des protéines végétales qui soient cultivées dans les champs. Et lui, il est en train d'installer un très beau process industriel qui sera l'extraction de ces protéines végétales. Vous voyez, ce n'est pas inéluctable. On a vécu sur un modèle qui était un modèle terrible. Et puis, si on veut s'en sortir en ayant des exploitations toujours plus grandes, on ne gagnera pas. On ne gagnera pas. Pourquoi ? Mais quand vous allez en Ukraine et que vous voyez des exploitations qui sont à 2000, 3000 hectares, ils auront toujours la possibilité de nous faire la peau. Si au contraire, on a des produits de qualité, si au contraire, on a des produits qui respectent l'environnement, c'est donner à nos agriculteurs, et il faut que ça se fasse de manière progressive mais résolue, donner à nos agriculteurs la possibilité d'un modèle économique qui soit viable.
Allez, encore une question, Anne-Solange.
Une dernière question sur l'hydrogène. Vous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure quand on a abordé le sujet de l'avion rapidement. Je sais que vous avez essayé de développer la filière sur le territoire. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Où est-ce que vous en êtes ? Et surtout, est-ce que c'est bien accueilli par la population ?
Oui. L'hydrogène, aujourd'hui, est vécu très certainement comme l'énergie la plus adaptée au mode de vie d'aujourd'hui. Pourquoi ? D'abord parce que c'est de l'énergie qu'on peut embarquer. Et donc, ça peut être l'énergie de la mobilité. Demain, on peut avoir des trains à hydrogène, on peut avoir des camions à hydrogène. Centre-Val-de-Loire, c'est un nœud routier important. Il y a beaucoup d'axes qui croisent.
Il y a déjà des voitures à hydrogène, hein, ça existe.
Absolument, mais il y en a beaucoup, beaucoup de poids lourds. Donc on en attend quoi ? On en attend l'installation sur une carte régionale de centres de production d'hydrogène. Et puis, à partir de ça, le système de distribution. On peut aussi injecter une partie de l'hydrogène dans le réseau gaz. Mmh. C'est très important. Et je fais en sorte que ces points d'implantation de l'hydrogène, les fabriques d'hydrogène, soient également près des pôles industriels, parce que l'hydrogène peut être également une énergie utilisée dans l'industrie. Donc c'est un sujet vraiment, vraiment central. Je voudrais juste ajouter, parce que j'ai parlé aussi de la consommation, consommer moins, consommer mieux. Eh bien là, j'engage sur les lycées un plan qui s'appelle COEPI, Performance énergétique des bâtiments, qui va me permettre d'économiser 40% de l'énergie consommée, 40% d'énergie fossile en moins, avec de nouveaux systèmes. Tous les lycées de Centre-Val-de-Loire, les 100 lycées de Centre-Val-de-Loire, vont bénéficier de ce dispositif, qui est un dispositif de mise en performance énergétique pour consommer 40% d'énergie en moins.
Tiens, François Bonneau, bon, vous prenez des initiatives qui vont dans le sens de la protection de l'environnement, hein, on l'a bien compris. D'ailleurs, vous gouvernez votre région avec les écologistes, même s'ils vont faire campagne à part pour les régionales. Moi, j'ai une question très rapide là-dessus à vous poser. Est-ce que vous comprenez la maire de Poitiers, écologiste, qui dit non mais les subventions à l'aérodrome, c'est terminé parce qu'il faut arrêter de rêver avec l'avion et de faire rêver avec l'avion ?
Je ne partage pas, d'abord parce que je crois vraiment que nous avons besoin d'un avion qui tiendra sa place, pas plus que sa place. Donc il faut réguler, je vous ai dit tout à l'heure, par rapport aux autres modes de transport.
Elle est un peu radicalisée, la maire de Poitiers ? Répondez à ma question. Est-ce qu'elle est radicalisée, la maire de Poitiers ? Il y a des radicaux verts. Donc,
je ne veux pas que nous ayons, par rapport à cette notion de rêve, etc., le rêve ne se commande pas. Le rêve des enfants, encore moins que celui de l'adulte. Et l'avion, c'est, dans nos imaginaires, c'est un élément de liberté. C'est un élément de performance, mais c'est aussi un élément de liberté. Vous savez, la région Centre-Val-de-Loire, c'est la région de Léonard de Vinci. C'est la région de la Renaissance. Mais quand vous prenez les carnets de Léonard, il était déjà, avec le système du biomimétisme, en train d'inventer l'homme volant. Il regardait comment étaient composées les ailes des oiseaux et il inventait des machines pour que l'homme puisse voler. Ça fait partie de nos imaginaires profonds. Et donc, je crois qu'il faut garder à l'avion sa place et ne pas remettre en cause. Il faut au contraire chercher pour un avion moins consommateur, chercher pour une articulation entre l'avion et la mobilité ferroviaire, etc. Mais il ne faut pas poser d'interdit général sur l'avion.
Donc la maire de Poitiers est radicalisée sur cette question.
Je ne partage pas son point de vue.
Allez, François Bonneau, dernière partie en direct des territoires sur Radio Territoria avec les questions politiques.
En direct des territoires, l'actu politique.
Tiens, François Bonneau, vous êtes Macron compatible aujourd'hui, après 4 ans de gouvernance, là vous êtes convaincu, vous êtes...
Non. Convaincu, non, parce que je fais partie des citoyens, des responsables, qui pensent que les grandes mutations qui doivent être engagées ne peuvent pas se faire sans une attention, bien évidemment, à l'économie, etc., mais aussi au social. Et j'observe que avant la crise... pas le problème de la crise comme un élément d'évaluation, mais qu'il n'a pas été suffisamment fait pour que l'ensemble de nos concitoyens soient partie prenante d'une démarche de progrès. Et je regrette qu'en matière de décentralisation, nous en avons parlé, on n'ait pas eu une vraie politique conduite par le gouvernement qui en appelle aux collectivités territoriales, qui fasse des collectivités territoriales à part entière
des acteurs à part entière.
Absolument.
Dites-moi, si vous deviez donner une note à Emmanuel Macron après 4 ans de gouvernance sur 20, ça serait combien ?
Ce serait vraiment... Les enseignants diraient une petite moyenne, mais on n'aura pas relevé les grands défis et surtout on n'aura pas mis autant que nécessaire en marche les grandes réformes qui sont absolument nécessaires. On parle beaucoup de l'environnement, mais ça avance assez peu au niveau global. On parle de la réindustrialisation, il faut aller plus vite. Et encore une fois, je trouve que dans ce pays où on a 13% de nos concitoyens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, on n'a pas une politique suffisamment... Il faut plus d'ambition, c'est surtout là-dessus, beaucoup plus d'ambition sur l'égalité, l'inclusion. Est-ce que en matière de réussite pour nos jeunes dans les écoles, etc., on aura inversé les tendances? Je ne le sens pas. Donc j'en appelle à une politique plus ambitieuse sur le plan social.
Donc une petite moyenne, 10, 11 sur 20, quoi, c'est ça?
Une petite moyenne.
Voilà.
Alors qu'il faut des projets très ambitieux, parce que nous sommes aujourd'hui confrontés à des bouleversements. On a parlé de l'environnement, on a parlé des bouleversements numériques, on a parlé des bouleversements dans les modes de vie. Regardez ce qui est en train de se passer, le rapport entre métropole, vie concentrée et le rural. Moi, je ne vois pas aujourd'hui, à un niveau suffisant, les espaces, les petites villes, les villes moyennes, reprendre véritablement un essor sur tous ces sujets. Je pense que sur le ferroviaire, il faut aller plus vite et plus loin, etc. Voilà, beaucoup de sujets.
Éric Richard, de la Nouvelle République du Centre, quelques questions sur les régionales.
Mais oui, volontiers. Vous avez, François Bonneau, été le premier à annoncer votre candidature, en tous les cas, votre candidature à votre propre succession. Si je me souviens bien, je crois que c'était en fin d'année 2019. On ne sait pas encore, en revanche, de qui sera composée votre liste. Alors, sans nous la déflorer totalement, peut-être est-ce encore un peu tôt, mais est-ce qu'on peut penser que ce sera une liste très socialiste, si je puis dire, ou est-ce que ce sera une liste ouverte, pourquoi pas, un peu plus largement?
Si j'ai bien compris, il y aura les communistes avec vous. Vous refaites l'union de la gauche.
Il y a en effet le souhait des communistes d'être sur cette liste. Ils avaient toujours accompagné, d'ailleurs, les majorités de gauche. La fois passée, ils se sont présentés, ils ont fait moins de 5%. Donc, ils n'ont pas pu être sur la liste de second tour. Ils ont souhaité cette fois-ci être sur la liste et ils le seront en effet. Mais d'autres formations avec lesquelles nous allons, Éric Richard, dans les prochains jours, signer des accords. Ce sera donc une liste ouverte et ce sera aussi une liste, j'insiste là-dessus, ouverte à la société civile. Ouverte aux associations, ouverte à des personnalités qui, de par leur trajectoire, illustrent des engagements prioritaires dans la vie.
Mais au niveau politique, il y aura aussi des écologistes, puisque vous gouverniez avec eux.
Il y aura des écologistes qui ne seront pas les écologistes d'Europe Écologie Les Verts, puisque Europe Écologie a souhaité faire sa liste, mais l'écologie ne se limite pas à Europe Écologie Les Verts. Europe Écologie Les Verts, c'est un des partis de celles et ceux qui ont des priorités écologiques. Il y en a dans d'autres partis. Il y en a au Parti socialiste et j'en fais partie, mais il y en a aussi dans des formations politiques qui seront alliées dans la liste que je conduirai.
Éric Richard, vous avez encore quelques secondes.
Oui, vous l'avez dit, vous nous réserverez peut-être quelques surprises dans cette liste. Lorsque vous parlez du mouvement associatif, c'est une chose. Est-ce que vous parlez aussi du monde de l'entreprise? Parce qu'on sait que vous entretenez avec l'entrepreneuriat bien des relations plutôt bonnes pour un socialiste, si je puis m'exprimer.
Oui, alors ça, c'est, vous le dites comme on le dit communément, et c'est quelque chose qui me surprend. Moi, je suis socialiste et je considère que porter...
J'ai presque envie de vous dire, il y en a encore.
Il y en a, et qui se portent très bien, qui ont une volonté d'accompagner le mouvement de cette société avec beaucoup de détermination. Non, par rapport à ça, une vision politique qui ferait vraiment l'impasse sur le développement économique serait une vision totalement condamnée. D'abord parce que le progrès de l'humanité, il ne peut exister que si nous avons de la production de richesses, de la production de biens, de la production de services, que ce progrès, il doit faire l'objet d'un juste partage. Mais s'il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de partage. Donc il est vrai que je suis très, très engagé dans ma région, aux côtés des grandes filières, aux côtés des PME, etc., pour que nous soyons, et c'est reconnu, j'ai créé une agence de développement économique dans laquelle j'ai positionné l'ensemble des chambres consulaires, CCI, c'est chambre des métiers de l'artisanat, et dans laquelle on retrouve les pôles de la recherche, de l'enseignement supérieur, dans lequel l'État a sa place, les autres collectivités ont leur place, et on travaille de manière très cohérente, de manière à ce que les entreprises aient vraiment un interlocuteur. Donc l'économie, ça fait partie vraiment de mes priorités, parce que derrière l'économie, il y a l'emploi. Derrière l'économie, il y a l'emploi. Il n'y a pas de société s'il y a
François Bonneau,
10 ou 15% de chômeurs.
Il nous reste 20 secondes, vraiment. Les régionales auront bien lieu au mois de juin. Vous y croyez encore ?
C'est nécessaire qu'elles aient lieu. On ne peut pas mettre entre parenthèses la démocratie. Dans presque tous les autres pays, on sait les organiser dans une période qui est une période de crise. Bien évidemment, de crise sanitaire. Bien évidemment, je souhaite que le vaccin donne les meilleurs résultats le plus vite possible, comme l'a annoncé le président de la République, Emmanuel Macron, comme l'a annoncé le Premier ministre Jean Castex. Et donc, si je les crois, et je suis porté à les croire, nous serons, au mois de juin, sortis de cette phase aiguë et difficile de la crise. Et il faut organiser cette élection, ce scrutin, dans l'absolue sécurité des femmes et des hommes, très nombreux et très nombreuses, qui viendront voter.
Merci beaucoup, François Bonneau, d'avoir été avec nous, président de la région Centre-Val-de-Loire. Merci d'avoir participé à cette émission en direct des territoires sur Radio Territoria. Merci également à Anne-Solange Muis, à Éric Richard de la Nouvelle République du Centre, qui était avec nous, et puis à nos réalisateurs, ils sont plusieurs, donc autant les saluer. Merci à vous tous. Émission à retrouver sur Radio Territoria, avec nos podcasts, bien sûr. À très vite.
En direct des territoires, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.